With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
Quand ma sœur Louise est née, j'avais 5 ans et 3 mois à peu près. Elle est née le 11 novembre, moi je suis née le 9 août. Et du coup, elle est décédée le 22 janvier. Je me pose toujours des questions quand je raconte ça, savoir qu'est-ce qui est de ma réalité à moi, de ce que moi j'ai vécu réellement, et des événements qu'on m'a rapportés, et des événements que moi j'ai fantasmés aussi par rapport à la réalité, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais moi je sens que c'est quelque chose qui, même encore maintenant, et à plusieurs moments de ma vie, où je me suis sentie mal justement de pas me souvenir de cette douleur que j'ai pu ressentir, comme si de pas l'avoir ressenti avant, il fallait que je la ressente toute ma vie en fait. Comme si, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais comme si en fait elle était jamais finie, vu je peux pas la situer dans un espace et que je me souviens pas l'avoir eue, comme s'il fallait que je la porte tout le temps. Et les plus handicapants, au-delà de la tristesse d'avoir perdu ma sœur, c'est cet oubli de tristesse, cette absence de souvenir de ce que j'ai pu ressentir, qui est le plus difficile, parce que je ne sais pas ce que j'ai ressenti et du coup je peux mettre n'importe quoi dans la case. Et ce mystère, c'est le plus compliqué en fait pour moi, j'ai l'impression. Un des trucs les plus compliqués, ne pas savoir.
C'est l'histoire d'une petite fille devenue femme. L'histoire d'une petite fille qui aimait dessiner et qui est devenue illustratrice. C'est l'histoire d'une petite fille, grande sœur d'un bébé qui n'a vécu que 2 mois et 14 jours. D'une petite fille qui est devenue grande sœur endeuillée à 5 ans et des poussières. Deux mois et 14 jours quand on est enfant, c'est long et c'est court à la fois. Il peut s'en passer des choses qui marquent à tout jamais pendant ces quelques semaines. Devenue grande, la petite fille se rappellera toute sa vie avoir attendu la naissance de ce bébé. Et il y a ce dessin qu'elle a fait sur lequel on voit le nouveau-né dans son landau. Le nouveau-né accompagné de sa grande sœur, de ses frères, de ses parents. Les photographies ont le don de saisir des instantanés de vie, de figer des images qui ne disparaîtront pas de la mémoire familiale. Et il en est de même des dessins d'enfants. Du haut de ses 5 ans, la petite fille a immortalisé sa famille avant le drame. L'image de cette famille de 4 enfants, c'est un souvenir qui ne s'effacera pas. Et quand la mort survient, emporte ce bébé qu'elle attendait tant, la petite fille en a conscience et elle s'en souviendra pour toujours. Mais pour un enfant, la vie reprend son cours, les semaines défilent, d'autres souvenirs se créent. Et plus de 30 ans après, on essaie de reconstituer l'histoire. D'ailleurs, ont-ils existé ces souvenirs ? Parfois, c'est impossible de se rappeler des émotions qui nous ont traversées, de la quantité de temps qui est passée entre deux événements. La mémoire ne permet pas toujours de mettre des images nettes sur des moments enfouis dans le flou de l'enfance. Mais il n'empêche qu'on reste marqué à tout jamais par des événements familiaux qu'on a vécus à hauteur d'enfant. Et on a beau être tout petit, il n'y a jamais de petit deuil. Surtout quand cela frappe ce petit bébé qu'on avait hâte de voir naître et dont on aimait tellement s'occuper. Au revoir podcast, épisode 18. Mathilde, j'ai perdu ma petite sœur lorsque j'avais 5 ans, quand le deuil périnatal frappe une fratrie. Dans cet épisode, la voix que vous allez entendre, c'est celle de Mathilde. Mathilde, vous connaissez peut-être déjà son coup de crayon, puisqu'elle est illustratrice et qu'elle met régulièrement en ligne ses dessins au format bande dessinée sur son compte Instagram et son blog, tous deux intitulés « Mais presque rien ». À travers ses dessins, Mathilde parle surtout des grossesses arrêtées et de sa propre maternité, puisqu'elle a donné naissance à une petite Mona, âgée aujourd'hui de 3 ans et demi. Mais dans cet épisode, nous allons parler d'un deuil qui a frappé sa famille quand elle était toute petite, lorsqu'elle avait 5 ans et demi. Ensemble, nous allons puiser dans ses souvenirs et remonter jusqu'à ses plus jeunes années. Mathilde, qui a déjà un grand et un petit frère, apprend qu'un bébé va agrandir la famille. Et elle se souvient de l'attente et des premiers moments qu'elle a vécu avec cette petite fille prénommée Louise.
Mes parents, ils ont toujours fait la surprise pour la naissance, donc je ne savais pas si c'était une petite fille ou un garçon. Je me souviens que c'était un bébé. Je me souviens que c'est quelque chose dont j'avais hâte. Après, je sais pas si quand on est enfant comme ça, c'est des choses qu'on imagine ou qui sont réelles, mais je me souviens de moi à l'école maternelle en train de dire à mes copines quand on jouait dans le coin dinette de l'école, de la classe, et dire ah, moi quand je vais avoir un bébé, ça va être ça, je vais pouvoir le bercer comme ça, etc. Et du coup de me projeter en fait dans cet enfant. Et effectivement, quand elle est née, je pense que c'est moi qui l'ai le plus changé. J'adorais quand elle se vomissait dessus parce que je pouvais aller la changer, lui changer ses vêtements, les choisir, qu'est-ce qu'on choisit, etc. Quoi. Je me souviens de ça. Ouais. Après, j'ai peu de souvenirs hein, parce que j'étais pas très grande hein, quand même.
Un matin du mois de janvier, il y a de l'agitation dans la maison. La fratrie, composée de Mathilde et de ses deux frères, se réveille. Tous les trois apprennent que leur petite sœur, âgée de quelques semaines, est décédée pendant la nuit. Louise avait 2 mois et 14 jours. Nous sommes au tout début de l'année 1990.
Je me souviens qu'on s'est levé un matin et on a descendu les escaliers. Il y avait plein de gens dans notre maison. Et du coup, on nous a dit que Louise était décédée pendant la nuit, en fait. Elle est morte vers minuit, quelque chose comme ça. Vers 11h du soir, il me semble, mais je suis même pas certaine. Donc ça, je me souviens de ça. Après, j'ai aucun souvenir. Elle a été incinérée. J'ai un souvenir de l'église qui était très blanche. Et du Petit Prince. Il y a une amie de ma mère qui avait lu le texte du Petit Prince sur le renard apprivoisé, tout ça. Je crois que c'est des textes qui sont beaucoup lus pour ça. Et je me souviens de ça. Après, je me souviens, voilà, comme des bribes, du coup, elle a été incinérée, donc elle n'avait pas de tombe. Et avec mes frères et je pense des cousins, on avait fait dans le jardin de mes grands-parents une tombe pour elle. On avait mis des cailloux. Enfin, on avait cueilli des fleurs dans le jardin et on lui avait fait une tombe. Après, on a été disperser ses cendres en Bretagne, là où il y avait déjà une histoire familiale. J'ai une tante qui est décédée, qui est morte en bateau quand elle avait 18 ans. Et du coup, c'est là qu'elle est morte. C'est là qu'en gros, c'est le cimetière familial de la mère. Et du coup, c'est là que Louise est maintenant. Enfin, elle n'y est plus du coup, parce qu'elle était toute dispersée. Et elle est redevenue autre chose. Mais c'est là que nous, là, on a mis. Mais ça, j'en ai pas de souvenir, en fait. Voilà, j'ai fait des personnes avoir fait des énormes bonds dans le temps. Entre le moment où elle est décédée et le moment où on a dispersé ses cendres, je pense qu'il s'est passé plusieurs mois. Mais je me souviens pas. Il y a une photo de moi enfant dans les rochers, là où on a dispersé son corps, et j'ai une robe d'été. Donc je pense que c'est à un moment donné où il faisait quand même faire un peu chaud, vu qu'en plus on est en Bretagne. Mais j'ai pas de souvenir précis et enfin, je pourrais demander ça à mes parents. Et je me souviens que l'urne est restée à la maison. Ça, je me souviens, c'est l'objet posé sur le piano.
Mathilde m'explique que Louise est décédée de la mort subite du nourrisson. L'autopsie n'avait pas donné de résultat. Il n'y avait aucun symptôme avant-coureur de quoi que ce soit. Louise s'est sans doute mise en apnée et c'était fini, m'explique Mathilde.
Selon l'association Naître et Vivre, on parle davantage aujourd'hui de mort inattendue du nourrisson plutôt que de mort subite du nourrisson, appellation qui était très courante dans les années 80-90. La mort inattendue du nourrisson, c'est le décès d'un enfant de moins de 1 an, le plus souvent dans son sommeil, alors que rien dans ses antécédents médicaux connus ne pouvait le laisser prévoir. Les causes de décès ou les facteurs de risque de la mort inattendue du nourrisson peuvent être multiples. On retrouve par exemple les infections, des voies respiratoires ou encore des facteurs de risque liés à l'environnement, comme les conditions de couchage. Toutefois, on réserve encore aujourd'hui le terme de mort subite du nourrisson au cas de décès qui ne peuvent être expliqués, comme dans le cas de Louise, justement. Mais la petite Mathilde de 5 ans est à des années-lumière de ces considérations médicales. Aujourd'hui adulte, elle doit piocher dans sa mémoire pour parvenir à mettre des images et des mots sur les semaines et mois qui ont suivi la mort de sa sœur. Elle se rappelle donc de l'annonce du décès. Il y a ce souvenir aussi, lié aux funérailles, à la dispersion des cendres. Une réminiscence de ce jeu dans le jardin des grands-parents. Mais Mathilde, l'adulte trentenaire, se souvient-elle de ce que la petite Mathilde de 5 ans et des poussières a ressenti lorsque sa petite sœur est partie ?
J'aurais juste envie de... Je sais pas, de lui prendre la main et de lui faire un câlin, et pas forcément de lui dire des choses. Ou de lui dire qu'elle a le droit d'être triste aussi, peut-être. Peut-être que je me le suis, moi, j'en sais rien. Peut-être que je me suis un peu interdit parce que tout le monde était tellement triste, alors il fallait être fort, tu vois, pour pas être une charge encore plus pour tes parents qui déjà étaient en train de vivre un truc. Donc, je pense que je lui dirais ça. Qu'elle a le droit d'exprimer ce qu'elle ressent par rapport à tout ce qu'elle est en train de vivre. J'ai pas le souvenir d'avoir été triste. Alors je pense que je l'ai été, c'est pour moi, mais aussi pour les autres, je pense, parce que surtout, je pense, quand on est enfant, le deuil de l'enfant, c'est surtout le deuil des autres. En fait, j'ai l'impression de ceux qui l'entourent et de voir la tristesse de tout le monde. Enfin, peut-être, hein, mais j'ai pas le souvenir d'avoir été triste ou d'avoir. Sûrement que je l'ai été, hein, mais c'est pas quelque chose dont je me rappelle. Mais moi, je sens que c'est quelque chose qui me, même encore maintenant et à plusieurs moments de ma vie, où je me suis sentie mal justement de pas me souvenir de cette douleur que j'ai pu ressentir, comme si de pas l'avoir ressentie avant, il fallait que je la ressente toute ma vie en fait. Comme si, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais comme si en fait elle était jamais finie, vu qu'elle, je peux pas la situer dans un espace et que je me souviens pas l'avoir eue, comme s'il fallait que je la porte tout le temps en fait.
Ces émotions, elles ont existé sans doute, mais elles se sont dispersées et envolées dans l'air du temps qui passe. Elles n'ont pas laissé de traces, pas d'indices de leur passage dans la mémoire de Mathilde. Et pourtant, elles ont dû être là, ces émotions. Mathilde, petite fille, continue donc sa vie d'enfant. En août 1990, elle souffle ses 6 bougies. Les mois passent, sa maman retombe enceinte. Et en mai 1991, elle donne naissance à une autre petite fille. Pour Mathilde, qui a désormais quitté l'école maternelle et qui est en CP, ce bébé, c'est l'enfant d'après, après Louise.
J'ai les souvenirs de quand elle est née, que mon père est revenu de la maternité et qui nous a dit « c'est un fille ». Enfin, il a fait une petite blague, quoi. Mais je me souviens pas après de la grossesse de ma mère, j'en ai aucun souvenir. J'ai pas de souvenir de tout ça. Après, je me souviens de si, je me souviens d'elle enfant, mais je me souviens pas de la même... du même plaisir de la changer, de ces trucs-là, en fait. Je pense que je me suis vraiment protégée par rapport à ça, moi, enfant. J'ai vraiment, je pense, mis de la distance. Je peux pas revenir en arrière, hein, mais c'est douloureux. Et pour ma sœur, c'était quelque chose de très dur. Pas forcément ma position à moi, mais de manière générale, trouver sa place, même encore maintenant, c'est quelque chose qui est difficile. Mais parce que je pense que, vu qu'elle est arrivée après... En plus, c'était une petite fille, donc la même, entre guillemets. Comment l'aimer, en fait, si elle, ça se trouve, elle va mourir, elle aussi. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais, en fait? Je pense que je me suis beaucoup protégée par rapport à elle en essayant de ne pas faire trop de relations, on va dire. Même s'il y en a une, forcément, parce qu'on est sœurs. Donc, on a 7 ans d'écart quasiment, donc, mais je pense que, ouais, c'est, alors qu'avec mes frères, je suis beaucoup plus, soudée avec ma sœur, je pense que c'est plus compliqué de ce fait-là. Et je pense que la position de ma sœur est aussi très, très, très difficile. C'est dur de dire à voix haute ce que je suis en train de dire, en fait. J'ai l'impression, parce que c'est, C'est comme si je l'aimais pas, alors qu'en fait c'est pas ça, c'est la peur de la perdre fait que ben on préfère pas trop s'attacher pour pas se faire trop mal après, quoi. Pour elle, il a fallu exister encore plus que n'importe qui d'autre, parce qu'il fallait exister pour deux personnes, pour elle et pour cette sœur qui est décédée juste avant, et c'est terrible. Voilà, je trouve ça très dur. Moi, je sens en tout cas que avec mes deux frères et moi, on est beaucoup plus liés que moi, en tout cas, je le suis avec ma sœur. Mais après, mon frère, lui, par exemple, c'est pas le cas pour lui. Donc, c'est mon petit frère. Donc, en fait, on a chacun notre géographie dans la famille. Mais moi, je pense en tout cas que même si c'est dur, et si ma sœur écoute ça, j'ai déjà plus ou moins parlé, mais je pense que pour moi, c'est la naissance de ma sœur, ça a été vraiment quelque chose de difficile.
Ce n'est jamais simple d'être l'enfant qui vient après un deuil périnatal. Et les mots de Mathilde, même s'ils peuvent sembler rudes, montrent bien la complexité de cette place dans la fratrie. La complexité pour les frères et sœurs d'avant, la complexité pour l'enfant qui vient après. Par ailleurs, dans la famille de Mathilde, il y a peut-être eu des rituels pour célébrer cette sœur qui a disparu. Peut-être. Mathilde n'en a pas le souvenir non plus, et sa fratrie ne semble pas y avoir participé. C'était peut-être une affaire de parents, de grandes personnes, peut-être. Alors la présence de Louise se manifeste d'une autre manière, dans des lettres entreposées et stockées sur une étagère, pas complètement à l'abri des regards, mais à portée de main, dans un ticket d'entrée pour le jardin des plantes, consigné dans le portefeuille paternel, dans une date, celle de sa naissance, qui s'impose à la famille lors d'un jour férié du mois de novembre.
Ce tas de lettres reçues de cette lettre de condoléances, en fait, pour la plupart, et qui sont, ouais, elles étaient dans un vieux papier plastique, même pas dans une belle boîte ou quoi, c'est juste comme si elles étaient arrivées en même temps, et le moment où elles sont arrivées, on voulait pas forcément les lire ni les avoir, et c'était peut-être trop dur de ça, elles ont été mises dans un truc vite et mises à un endroit, mais elles n'ont pas été jetées. Et elles sont encore là. Et elles n'ont pas bougé depuis, je pense, 20 ans. Cette boîte-là n'a pas bougé, elle est pleine de poussière. Je sais pas s'ils les lisent ou pas, parfois. Je suis tombée par hasard une fois dessus, et je les avais toutes photocopiées pour les avoir à la maison. Mais après, je sais pas si mes parents, ils ont... Je sais que mon père, je crois qu'il garde dans son portefeuille un ticket d'entrée du jardin des plantes où on avait été avec Louise quand elle était toute petite. C'est quelque chose qui est dans son portefeuille et que, je pense qu'il change de portefeuille et ça bouge avec. Et ma grand-mère aussi avait fait graver une plaque pour mettre sur le tombeau familial, en fait, de... Même si elle n'est pas enterrée là, du coup, il y a une plaque pour, du coup, c'est pour Louise. Vu qu'elle n'a pas de tombe, il n'y avait aucun endroit où elle était écrite, en fait. Donc, j'ai trouvé ça bien de faire ça. J'ai aucun souvenir de rituel, de quoi que ce soit, genre de rituel d'anniversaire qu'on aurait pu fêter, entre guillemets, ou d'anniversaire de sa mort, où on aurait pu aller dans un endroit ensemble ou faire des choses, non, pas du tout. J'ai souvenir que pendant un moment, ma mère, elle mettait mon père d'ailleurs, je sais pas, mais je pense que c'est ma mère, mettait un bouquet de fleurs, il y avait un bouquet de fleurs dans la maison. Ça dure un moment, ça, mais je pourrais pas dire si c'est des mois ou des années, je sais pas. Et à un moment donné, ça s'est arrêté. Et à la place, ma mère a mis un petit cadre avec un bouquet de fleurs dedans. Un dessin, en fait. Et voilà. Et je crois que ce cadre est parti maintenant, il n'y est plus. Nous, en tout cas, en tant que famille, je crois pas qu'il y ait eu des rituels qui aient été faits. Après, je pense que peut-être mes parents en avaient entre eux, tous les deux ensemble, mais ils nous ont pas fait participer à ça. Ou en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Et, ou peut-être juste ma mère d'un côté et mon père de l'autre, je sais pas, mais en tout cas, ensemble, en tant que famille, non, on n'avait pas ça. Je me souviens d'événements aussi où ma mère s'exprimait sur le sujet. Et je me souviens d'un moment où c'était le 11 novembre, du coup, l'anniversaire de ma sœur, c'est un jour férié, donc il y a tout un truc, c'est un jour particulier, en fait. Donc c'est déjà un jour particulier et je sais que ma mère, elle a toujours dit qu'elle détestait l'hiver. C'est de novembre à janvier, on est en plein hiver. Elle déteste le froid, elle déteste l'hiver. Je sais pas si c'est lié à ces choses-là, en fait. Les jours que le soleil qui se couche tôt. Enfin, tous ces trucs-là, c'est des choses qu'elle déteste. Et je pense qu'il lui rappelle, en fait, à chaque fois, la mort de Louise. Mais il y a des fois où il y avait des petits moments où d'un seul coup, je me rendais compte, en fait, que c'était quelque chose qui existait encore. Et du coup, dans ces choses-là que va dire ma mère, je me rappelle qu'une fois, on avait été chez mes grands-parents et c'était le 11 novembre. Et du coup, mon grand-père lui a demandé « Alors, comment ça va aujourd'hui ?» Et ma mère s'est retournée, moi, en tout cas, je l'ai ressenti, genre, d'un seul coup, je me suis rappelé, moi aussi, que c'était l'anniversaire de ma sœur qui était décédée. Je l'ai pris dans ses bras, genre, ah oui, c'est vrai. Enfin, comme un truc un peu oublié, en fait. Et je me souviens que c'est des moments comme ça, en fait, où d'un seul coup, je prenais conscience, en fait, que le temps passe, mais que c'est toujours présent. Enfin, c'est quelque chose qui l'est encore. Et même encore aujourd'hui, je pense. Je pense que pour mes parents, le 11 novembre et le 22 janvier, c'est des jours à passer. Je pense pas qu'il l'oublie. Je pense qu'on n'oublie pas.
Louise, elle est là, mais elle n'est pas là. Comme me l'explique Mathilde, elle est dans les interstices, dans les silences. C'est un souvenir, une pensée. Elle est partout et elle est nulle part. Mathilde m'a expliqué que le passage de Louise dans la vie de sa famille n'était pas un tabou. Oui, mais voilà, parfois, il y a des choses qu'on ne parvient pas à expliquer. On n'arrive pas à trouver les mots. Ce n'est pas un tabou et en même temps, Mathilde a l'impression que tous les fils de cette histoire familiale n'ont pas été démêlés, dénoués. Il y a quelque chose qui semble ne pas passer. Un je ne sais quoi, à l'image peut-être de ces souvenirs cotonneux de l'enfance dont on n'arrive pas toujours à bien cerner les contours, ou à l'image de ces puzzles dont il manque une pièce pour que l'ouvrage soit complet.
Des fois, je dirais que sa place, elle est trop grande. Parce que pour moi, elle en prend trop, en fait. Elle est tellement justement, comme je dis, dans les vides, dans les petits interstices, elle s'est glissée un peu partout. En fait, pour moi, c'est comme ça que je le vois, dans toutes nos fragilités, dans toutes nos... Autant, je dis moi, mais je parle aussi de... C'est marrant, je peux pas la différencier de moi, moi, mes frères, mes parents, et ma sœur à Louise, en fait. Je pense que c'est vraiment un tout. Mais j'ai l'impression qu'elle est trop là. Enfin, moi, en tout cas, comme si j'avais jamais vraiment dit au revoir et qu'il fallait que je le fasse, en fait. Et je sais pas comment le faire. Est-ce que c'est quelque chose que je dois faire toute seule? Est-ce que c'est quelque chose que je dois faire avec mon papa, ma maman et mes frères et ma sœur? Je sais pas. Mais je pense que c'est nécessaire. Mais après, c'est mon point de vue à moi. Mais comme pour dire, OK, maintenant, on vit tranquille. Non pas qu'on n'est pas tranquille, mais on vit... Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie, mais ça veut dire qu'on lui donne sa place qui n'est pas celle qu'elle est maintenant, qui est trop grande. Je ne sais pas si c'est compréhensible ou clair ce que je dis, mais peut-être que c'est... Et peut-être qu'encore une fois, que ce n'est que moi qui ressens ça, en fait. Il n'y a que moi qui ressens cette gêne de quelque chose de trop présent, mais je pense pas. Et je pense que c'est trop présent parce qu'il y a des choses qui n'ont peut-être pas été dites ou qui ont été peut-être mal dites ou mal comprises ou mal vécues et qu'il faudrait en fait faire un gros déballage de tout ça. Et après, on range correctement dans les boîtes ou dans des choses ce qui doit être rangé, et c'est toujours présent. C'est juste que c'est plus une énorme pelote de laine de trucs. C'est juste en fait une tresse, par exemple, ou un tapis, ou enfin de transformer en fait ce gros truc en quelque chose de plus construit. Quand je dis que ça prend trop de place, c'est pas qu'il faut pas ne pas en parler, ne pas le faire exister, c'est juste le faire exister autrement, d'une autre manière. Et je pense que ça c'est nécessaire. Même si peut-être chacun de notre côté, dans ma famille, on règle dans notre tête des choses. On a déjà peut-être rangé nos petites boîtes à nous, à l'intérieur de nous, mais je pense qu'il y a toute une grosse boîte. Un gros désordre à ranger en commun. Mes parents sont quand même assez ouverts, ma mère en tout cas, et parlent beaucoup, facilement, j'irais pas dire facilement, mais elle est pas, ils sont pas à faire des secrets ou à dire des choses pour en dire d'autres. Je pense qu'ils sont assez, franc là-dessus. Donc, je pense que j'ai su qu'elle était morte de la mort subite du nourrisson, ou peut-être expliquer comment on sait pas, l'arrêter de respirer, j'en sais rien. Mais je sais que c'était du coup un truc, moi, qui m'angoissait beaucoup après, de mourir dans mon sommeil pendant super longtemps. Même adolescente, je me rappelle, j'avais vraiment toute une période adolescente où j'avais l'angoisse de pas me réveiller de la nuit, en fait. C'est ça qui est étonnant. Je pense pas que mes parents nous aient forcément caché les choses, ou qu'on n'ait pas eu le droit d'en parler, ou pas de poser de questions. Après, c'est peut-être juste mon rapport à moi. Et moi, je me souviens qu'enfant, par exemple, j'en parlais pas. Et j'en parlais pas. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais entendu mon frère en parler à la mère de ses copains de classe. Et je me souviens qu'un petit peu, d'un côté, j'en avais voulu parce qu'il l'avait dit et qu'on ne parle pas de ça, en fait. Et d'un autre côté, je l'avais envié parce qu'il avait réussi à en parler et que moi, j'en étais pas capable, en fait. Et du coup, tu vois, c'était un peu un truc entre les deux de positionnement. Quand j'ai posé la question à ma mère, du coup, sur comment ça s'était déroulé exactement, je sais qu'on a tous été chez le psy, on a eu un suivi, on n'a pas été livré à nous-mêmes face à ça, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que, enfin voilà, je pense que des fois, même en faisant tout ce qu'il faut faire, et ben on a quand même perdu une sœur. Donc le besoin de comprendre, je pense que c'est venu par phase. Je sais que ado, à un moment donné, quand j'avais même plus qu'ado, mais 15-16 ans, j'avais émis l'idée d'aller chez le psy pour parler de ça, en fait. Et j'ai tenté l'expérience, mais c'était une psy horrible qui parlait pas du tout pendant toute la session. Elle me posait aucune question. Je restais assise pendant une heure, puis qu'elle me parlait pas, je lui parlais pas. J'avais pas du tout aimé, donc je suis plus jamais retournée. Je suis allée deux fois et j'ai fait OK, non, c'est bon, j'arrête. Voilà. C'est pas des choses, enfin, le psy, il répare pas tout, donc, et puis des fois, voilà, ça, on peut être réparé et se rendre compte plus tard qu'on ne l'est pas. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Et psy ou pas psy, d'ailleurs. Il y a plein de moyens de se réparer autrement que le psy, hein, mais, on parle peu de quand elle était vivante et que est-ce qu'elle était mignonne, est-ce qu'elle pleurait beaucoup, est-ce qu'elle faisait ses nuits, qu'est-ce qu'elle aimait, est-ce qu'elle, enfin, je sais pas, moi, j'en ai aucune idée. Enfin, je me souviens pas, en tout cas. Je trouve ça triste un peu de pas avoir ce morceau manquant là de vie qui était là quand même. Ma mère, des fois, raconte en disant que quand elle parle de ses accouchements, par exemple, ou quand on était petit, elle dit que vous étiez petit. Et du coup, je sais que dedans, il y a Louise dedans, où elle raconte « Ah, bah, pour l'accouchement de Louise, je me rappelle. Oh là, c'était tellement rapide. » Enfin, et du coup, d'un seul coup, va dire ça, mais ça va pas aller... Enfin, c'est pas... Enfin, bref, quoi. C'est des petites choses.
Il y a une question que je me posais au moment de l'enregistrement avec Mathilde. Quand on est une petite fille qui perd une sœur et qu'on est témoin de ce deuil, est-ce que cela a une incidence sur la manière dont on envisage sa propre maternité, sa parentalité, sur la manière dont on considère les bébés, sur la manière dont on vit, en fait? Comme me l'explique Mathilde, Louise a vécu un peu plus de 2 mois, 2 mois et 14 jours précisément, 2 mois qui sont devenus une sorte de symbole dans sa famille, 2 mois qui ont marqué durablement et différemment les esprits.
Mon grand frère, il n'a pas réussi à appeler par le prénom, en fait, ses neveux et nièces. Il n'a pas d'enfant, mon frère. Du coup, quand ma nièce est née, la première, dans les 2 premiers mois, il l'appelait Pichoun, elle, l'enfant, le bébé. Et du coup, quand elle a passé le stade où ma sœur est décédée, il l'a appelée par son prénom. Comme si avant, pour lui, c'était juste pas possible. Pour mes fausses couches, je me suis posé la question, vu que ça a duré 2 mois et 14 jours, c'était 2 mois, c'était à peu près le stade où mes fausses couches s'arrêtaient. Et du coup, je me suis demandé, mais est-ce que, si ça se trouve, c'est mon corps, il dit stop, parce qu'il sait que ça peut pas aller plus loin, en fait. Enfin, la vie s'arrête au bout de 2 mois, donc hop, il arrête. C'est plutôt arrêté maintenant que plus tard. Je sais pas, après, c'était des pensées un peu... essayer de chercher une explication désespérément à ce qui m'arrivait, quoi. Donc, je pense pas que c'est un lien, en tout cas pas dans ce sens-là, quoi. Cette histoire-là, du coup, que moi je traîne, entre guillemets, mais qui est tellement ancrée à l'intérieur de moi que physiquement, ça m'a peut-être cassé, en fait, de la porter tout le temps avec moi. Et du coup, je me suis demandé, non pas que c'était de ma faute ou que c'était quelque chose comme ça, mais je pense que je pense que ça constitue l'individu que je suis aujourd'hui. autant dans ma tête que dans mon corps et dans mon positionnement, dans les maladies que je peux avoir. Enfin, j'en sais rien. Enfin, peut-être que je suis un peu trop loin, je sais pas. Mais en tout cas, dans la manière que je peux avoir, je pense, de respirer, de manger et d'être physiquement, je pense que c'est quelque chose qui m'a construit. Un peu. Par exemple, je sais que je mange jamais de poisson depuis que je pense que c'est lié du coup à ma sœur qui a été dispersée dans l'océan. Du coup, j'ai jamais mangé de poisson depuis. Je pense que c'est, j'avais l'impression de la manger elle-même, comme si ça revenait en fait. Alors que c'est purement symbolique, hein, mais je le fais pas. Donc, je pense de ce poisson que je mange pas, j'ai d'avoir une carence quelque part. Je respire pas forcément correctement. Je pense que tu vois, comme s'il fallait pas respirer trop, et c'est des choses qui influent aussi ma manière de comment mon sang circule dans mon corps par rapport, enfin, des choses. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense que c'est des choses qui sont liées aussi, pas forcément un peu à cet événement, mais aussi à notre histoire. Et de la même manière qu'un accident de une jambe cassée peut nous faire boiter, je pense que c'est la même chose pour un événement traumatique de cet ordre-là. Quand Mona est née, une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai coché dans l'agenda 2 mois et 14 jours plus tard, comme si c'était, il fallait que j'arrive jusque-là, quoi. Après, c'était bon. Alors qu'en fait, on sait que non, hein, ça peut être plus tard. Mais du coup, j'avais coché, c'était ça tombait en décembre. À la naissance de ma fille, je pense que j'ai vraiment pris conscience de physiquement ce que ça pouvait être, en fait. Et j'ai imaginé le geste de la retrouver morte et de porter son corps, en fait. Tu vois, de porter le corps mort et d'avoir le poids dans les mains. Est-ce que tu vois, ils sont encore cette sensation de, tu vois, d'inertie, je sais pas comment exprimer ça. Lorsque Mona est née, ma mère a du coup demandé des photographies de Mona, mais seulement celle avec les yeux ouverts. Elle voulait pas celle où elle avait les yeux fermés, en fait. Parce que je pense que ça, pour elle, ça évoquait trop, enfin, trop Louise et trop les yeux fermés pour toujours, enfin, la mort, quoi. Alors, moi, j'ai interprété ça comme ça. Mais peut-être que ça se trouve, c'est mon interprétation qui est celle-ci, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça, c'est ce qu'elle juste, elle avait envie de voir ses yeux, mais je pense que c'est ça.
Mathilde n'est pas seulement une sœur ou une mère, elle est aussi illustratrice, comme je vous l'ai dit en début d'épisode. Et c'est sur son blog et son compte Instagram que vous pouvez la retrouver. Intitulé « Mais presque rien », ce blog et ce compte proposent notamment de très nombreux dessins sous forme de BD autour des grossesses arrêtées. Celles vécues par Mathilde, elle en a vécu 4 consécutives, celles traversées par d'autres femmes, par des couples. Les fausses couches telles qu'on les invisibilise, telles qu'on les prend en charge, tels sont les sujets des dessins de Mathilde. Il y a aussi leur perception sociale, les émotions qui en découlent, notamment. Et parfois, elle fait un pas de côté et elle parle de sa famille, de ses sœurs, de Louise. Dessiner à propos de sa vie, c'est thérapeutique. Cela permet de nouer le dialogue avec les autres, de ne pas se sentir seule.
Du coup, moi, j'ai fait des études en art plastique, donc j'ai dessiné, j'ai fait du dessin tout le temps. Et je tirais dans à partir de mes 20 ans, 25 ans, j'ai commencé à essayer de raconter cette histoire-là, en fait. Et je me souviens que j'avais été aussi, que j'avais une amie de classe qui avait écrit une petite histoire et qui racontait l'histoire. C'était un petit livre d'illustration. Elle avait une sœur et sa maman est tombée enceinte. Et du coup, l'enfant a grandi, elle raconte la grossesse. Et en fait, d'un seul coup, l'enfant meurt dans le ventre de sa maman. Et elle racontait cette histoire-là, en fait. Et elle avait dit, elle racontait ça en disant que l'enfant était parti en chagrin. Et c'est sa maman qui expliquait ça, là, pour expliquer à leur enfant. Elle avait dit que l'enfant était parti en chagrin et qu'il reviendrait plus. Enfin bref, et j'ai trouvé ça vachement beau. Et du coup, je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai vu que du coup cette amie elle avait raconté cette histoire-là, je me suis dit en fait moi j'ai envie de le raconter aussi, quoi. Je sais pas encore, enfin voilà, j'ai fait plein d'essais, mais voilà, je tourne autour et un jour j'y arriverai, mais voilà. Et je pense que c'est beaucoup pour eux, mes parents, que j'écris tout ça pour qu'ils le lisent. Je sais pas s'ils le lisent, je sais pas après ce qu'ils en font ou quoi au caisse, mais c'est d'ailleurs, beaucoup de personnes d'écrivains ou d'illustrateurs ou de choses racontent des histoires pour une personne en particulier. Finalement, après, ça se met à toucher d'autres personnes. Donc, c'est ça qui est bien dans raconter des histoires, finalement. Et puis je me rends compte aussi, souvent quand je partage des choses, que je suis pas toute seule à ressentir ça. Et souvent, quand on a la pression de faire ça, de se raconter, on se dit, en tout cas moi, souvent, je me dis, c'est bon, ça c'est 36-15 ma life, machin, c'est bon, quoi, ça va, arrête de raconter ta vie tout le temps. Et en fait, je me rends compte que quand je le fais, je reçois souvent des messages, ah, j'ai ressenti pareil. Merci, ça m'a fait du bien. Enfin, je reçois personne qui m'envoie un message pour me dire putain, on a rien à foutre en fait, ta gueule quoi. Donc je me dis bon, je continue. On verra. Tu vois. Bref, ça me fait réfléchir. Ça me fait, ça me fait me questionner. Ça me fait questionner aussi des fois mes proches. Ça fait du dialogue en fait. Et je trouve ça fait parler.
Cet épisode touche à sa fin et je te remercie Mathilde d'avoir accepté de me parler de cette histoire qui a touché ta famille et qui t'a profondément touché toi au plus profond de ton cœur et de ton enfance. Merci pour ta franchise, merci pour tes mots, merci d'avoir partagé avec nous tes interrogations et tes doutes. Je vous rappelle que Mathilde est illustratrice et vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram et son blog « Mais presque rien ». Si vous souhaitez par ailleurs en savoir plus sur la mort inattendue du nourrisson, je vous conseille vivement de vous rendre sur le site internet de l'association Naître et Vivre. Je vous mets tous les liens directs vers ces ressources dans la description de l'épisode. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très très vite et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je laisse le mot de la fin à Mathilde qui va vous expliquer à quel point sa famille, elle l'a dans la peau.
Cette maison que j'ai du coup, sur la peau, ça représente pour moi ma famille. Parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où on y a tous été en fait dans cette maison. On a tous connu cette maison et c'est beaucoup un moyen d'avoir toute ma famille sur moi, comme si c'était pas déjà suffisamment pesant une famille, il fallait que je les tatoue sur moi quoi. Mais des fois j'ai l'impression que le tatouage en fait c'est aussi un moyen pour moi en tout cas de sortir ce qui peut être pesant et de le déposer à l'extérieur en fait,